Bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1 pour deux nouvelles chroniques hebdomadaires. La semaine dernière, vous avez peut-être pu écouter l'émission numéro 3 consacrée aux pénalités. La prochaine émission numéro 4 sera consacrée à un bilan de la saison 2014 où j'éplucherai par écurie les différentes forces et faiblesses à la fois des monoplaces et des pilotes de toute la saison. Et si vous souhaitez participer à cette émission via le quiz, n'hésitez pas à ajouter le Skype Analyse F1, tout attaché, Analyse F1. Et ça vaudra inscription au quiz de m'avoir ajouté. Je prendrai contact avec vous afin de convenir d'une date qui vous arrange et qui nous arrange tous les deux, bien entendu. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur l'actualité chaude, on va dire, l'actualité dont je ne pourrais pas parler plus tard si je n'en parlais pas aujourd'hui. Donc je vais bien sûr parler de Sauber, dont on connaît le duo de pilotes de 2015. Et je parlerai du crowdfunding de Caterham, qui me semble discutable, mais intéressant, justement, d'en discuter. Et pour finir ce podcast, qui sera peut-être assez court, enfin je dis ça à chaque fois et ça fait plus de 30 minutes à chaque fois, hein, veuillez m'excuser, hein, c'est une sorte de feinte non voulue. À la fin, je parlerai quelques minutes du duel Hamilton-Rosberg et du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, parce que c'est le plus important cette fin de saison, c'est de voir le dénouement, de voir qui sera champion du monde en 2014. Mais pour l'instant, on est parti sur Sauber, une écurie, comme vous le savez, sans doute, qui est en difficulté cette saison, difficulté financière. Les répercussions de 2013, des mauvais comptes de 2013, on voit les répercussions sur 2014. Et Sauber a pris une décision de changer complètement son line-up de pilotes. Décision que je trouve plutôt bonne et je vais vous expliquer. Tout d'abord, cette saison, le line-up de Sauber était constitué de deux pilotes, Adrian Sutil et Esteban Gutiérrez, et ils seront remplacés la saison prochaine par Marcus Ericsson, qui était pilote Caterham cette saison, et Felipe Nasr, qui était troisième pilote chez Williams. Donc, sur un plan sportif tout d'abord, pour moi, je trouve que c'est totalement justifié, puisque Sutil et Gutiérrez n'ont rien montré avec Sauber cette saison, n'ont rien montré à part les deux dernières qualifications qui étaient encourageantes, mais ils n'ont marqué aucun point, ont fait quelques erreurs. Le coup près tombe et peut être bien justifié sur un plan sportif. Concernant Adrian Sutil, plus précisément, son retour en F1 en 2013 avait très bien commencé avec une belle course à Melbourne, quelques autres belles courses ensuite, mais ensuite, patatras, avec Paul Di Resta, ils ont fait un milieu de saison catastrophique avec plusieurs abandons, dont la plupart peut-être imputés à des erreurs humaines des pilotes. Et voilà, et Sutil, cette saison, n'a vraiment rien montré, hein, on peut le dire. Même par rapport à son coéquipier, il a très peu montré. Ce qui n'est pas normal. Esteban Gutiérrez, quant à lui, en 2013, c'était l'année où il était rookie, donc on pouvait se dire, il fait son apprentissage en F1. C'est normal qu'on ne le voit pas trop. Du coup, il a eu une saison très anonyme. Et malheureusement, c'est pareil en 2014, saison aussi anonyme, et en plus on l'a vu faire des erreurs, et souvent ces erreurs c'était parce qu'il voulait trop en faire, peut-être trop défendre des fois, il voulait trop en faire parce que peut-être qu'il était frustré d'être avec une monoplace, on va dire, si faible, parce que c'est vrai que la Sauber cette année est très faible, et du coup il voulait peut-être trop en faire, ce qui a occasionné quelques erreurs, c'est dommage pour le pilote mexicain. Du coup, ça nous donne deux pilotes Sauber qui n'ont pas été à la hauteur, en plus d'une monoplace faiblarde, mais les deux pilotes n'étaient pas à la hauteur. Du coup, il y a eu le besoin de la part de Sauber de prendre une décision forte de changer le duo de pilotes pour faire un renouvellement sportif qui peut être possiblement de bon augure. Mais bon, La décision de Sauber n'est pas motivée uniquement sur un plan sportif. Vous doutez bien qu'il y a aussi de l'argent en jeu. Et en effet, parce que les deux pilotes qui ont été choisis par Sauber sont des pilotes payants. Quand je dis pilotes payants, c'est des pilotes qui apportent encore plus d'argent que ce que pouvait le faire et que ce que pouvait le faire Sutil et Gutiérrez. Mais selon moi, c'est une bonne idée de remplacer un ou deux pilotes payants. Donc là, c'était plutôt Gutiérrez, hein, le pilote payant, de remplacer un ou deux pilotes payants décevants, parce que c'est vrai qu'ils ont été décevants, qu'ils ont été décevants, de les remplacer par des nouveaux pilotes, qui peuvent être aussi des pilotes payants, mais qui ont la niaque, qui ont envie d'aller en F1 pour gagner, qui ne sont pas là que par les sous, comme je vais l'expliquer. Par exemple, Marcus Ericsson, il avait fait ses armes dans les catégories inférieures. Cette saison, avec Caterham, c'est dur d'évaluer sa saison, on est d'accord. Avec une écurie assez faible, il a plutôt bien soutenu la comparaison avec Kamui Kobayashi, mais c'était compliqué. Il était dans le fond du tableau, c'était compliqué, souvent dominé quand même par les Marussia. En fait, quand on est dans des petites écuries comme ça, plus que le résultat sportif qui veut dire à la fois. Veut pas dire grand-chose, sauf dans certains cas, par exemple dans le cas de Bianchi, où lui arrive vraiment à montrer des choses avec de telles monoplaces. Mais sinon, ce qui est important de voir, c'est le comportement avec les ingénieurs, si le pilote est bon en termes de feedback, s'il aide bien son équipe de mécaniciens avec sa communication. C'est très important, la communication avec l'écurie, son adaptation à un nouvel environnement, l'environnement de la F1, sa maturité. C'est tout ça qui est jugé dans le paddock et les bruits qui courent partout. D'ailleurs, on se souvient de Charles Pic, hein, quand il a été passé de Marussia à Caterham, il me semble. Voilà ce qui avait été mis en avant, c'est sa maturité, son feedback, son très bon comportement avec l'écurie. C'est très très important. Et évidemment, durant l'année où les pilotes, en l'occurrence Ericsson, ou Ericsson est avec Caterham, il fait ses armes en F1, peut appréhender le monde de la F1 tout doucement, sans être trop observé, et ensuite pour être plus fort la saison d'après avec une écurie plus forte. C'est a priori, c'est vers cela qu'il se dirige avec Sauber, donc pourquoi pas Ericsson, hein, c'est pas non plus immérité, hein, c'est pas non plus immérité. Ensuite, Felipe Nasr, il faut en parler. Parce que vous allez me dire d'où il sort, on ne le connaît pas. Et bien justement, vous allez un peu mieux le connaître. Il a été champion de Formule 3 britannique en 2011. Il a terminé quatrième du championnat GP2 en 2013. Et il est actuellement deuxième du championnat GP2 cette saison et sera au pire du pire, troisième. Donc on peut dire que c'est quand même un pilote qui a fait ses armes dans les catégories inférieures, qui a été champion une fois, qui a bien lutté en GP2 deux fois dans le haut du tableau. Il a aussi eu des saisons un peu plus compliquées où il était on va dire dans le peloton, mais c'est intéressant aussi d'avoir des saisons dans le peloton pour mieux appréhender ce genre de course. Donc voilà Nasser, il a fait aussi quelques séances d'essais libres avec Williams cette saison, dont la dernière en date remonte au Grand Prix du Brésil, évidemment, vu que il est un pilote brésilien. C'était intéressant de lui faire cet honneur à Interlagos et de faire cet honneur au public brésilien très passionné. Donc voilà, Ericsson-Nasser, un duo qui est justifié pour remplacer Sutil et Gutiérrez qui étaient décevants. C'est un duo nouveau, frais, on apporte de la fraîcheur, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan financier. Parce qu'ils vont apporter des sponsors, de l'argent donc, beaucoup d'argent, qui va beaucoup aider Sauber, qui fait partie des écuries indépendantes, en difficulté avec Lotus notamment, avec Force India. Voilà, c'est des écuries qui peuvent être un peu sur la corde raide, et Sauber, on sait qu'ils étaient beaucoup sur la corde raide, là, donc c'est des pilotes qui peuvent aider sur tous les plans. Donc pour moi, c'est positif, hein. C'est positif. Il n'y a eu qu'un aspect négatif évoqué par Adrian Sutil qui était assez mécontent d'apprendre qu'il était débarqué de chez Sauber. Et du coup, il a balancé un peu et il a entre autres balancé qu'il y aurait un problème de contrat apparemment. Il avait déclaré qu'il y avait quatre contrats pour deux pilotes en 2015. C'est-à-dire que à la fois lui et un autre pilote, et je sais plus si c'était Gutiérrez ou Vandergaard. Mais en gros, il avait dit qu'il y avait 4 contrats en 2015 de 4 pilotes, et donc pour 2 baquets. Donc en effet, il y aura un problème. Ce à quoi a réagi très rapidement Monisha Kaltenborn, la team principale de Sauber, en disant qu'il n'y avait aucun souci et que c'était réglé. Donc, bon, moi j'y interprète comme le fait que les deux pilotes, ça sera bien Ericsson et Nasser. Hein. Sutil, à mon avis, il a réagi de façon virulente parce qu'il était assez mécontent. Mais je pense, je suis quasi sûr que ce sera Ericsson et Nasser chez Sauber, dans les baquets Sauber la saison prochaine. Voilà, et donc une ambiance tendue en cette fin de saison entre les pilotes Sauber et l'écurie tout simplement. Donc bon, c'est temps que ça change, c'est temps que tout change et que l'écurie puisse se renouveler. Sauber est une écurie qui est selon moi importante en F1 et qu'il faut soutenir. Donc c'est bien qu'ils arrivent à se renouveler et à faire connaître d'autres pilotes. Ils en ont tellement fait connaître, en l'occurrence en outre Felipe Massa, Kimi Raikkonen, hein, on se souvient, ça vient de chez Sauber. Donc c'est quand même une passerelle intéressante en Formule 1 pour des jeunes pilotes. Voilà, pour Sauber, c'était tout ce que j'avais à dire. Affaire à suivre pour la saison prochaine, voir si Ericsson et Nasser seront à la hauteur. On n'a aucune idée pour le savoir. Hein. Vraiment, ça va être leur début. Enfin, le début de Nasser en F1 et le début d'Ericsson, on va dire, dans le paquet, dans le peloton, parce que là, il pourra un peu plus lutter plus haut dans le classement, normalement. Faut le souhaiter pour la monoplace Sauber 2015. Donc voilà. Eh bien, on se quitte un court instant avec une pause musicale et on se retrouve pour parler du crowdfunding de Caterham. A tout de suite. Nous sommes de retour dans Analyse F1 et vous venez d'écouter un extrait d'une composition de Johannes Brahms, la symphonie numéro 2 en Ré majeur, opus 73 Allegro con spirito. Et allez, on est reparti pour parler de F1 et en l'occurrence parler de Caterham. Caterham qui donc a fait parler pour ses difficultés, pour son licenciement massif, hein. C'est vrai que Marussia, beaucoup de salariés de Marussia et de Caterham ont été licenciés. Donc on leur souhaite bien sûr de retrouver vite du boulot. Bon, je ne me fais pas trop de soucis parce que avoir sur le CV le fait d'avoir travaillé pour une écurie de F1, c'est quand même badass, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est quand même vraiment pas mal. Donc quand même bon courage aux salariés pour retrouver du boulot. Peut-être retrouver du boulot d'ailleurs dans la même écurie, si jamais il y a une reprise de salariés avec un repreneur pour ces écuries en difficulté, bon, un acheteur, qui sait. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, Caterham, qui n'a donc pas couru aux États-Unis et au Brésil, souhaitait quand même courir à Abu Dhabi et a mis au point un crowdfunding surprenant. C'est la première fois qu'une écurie utilise cela en F1. Et donc, ils ont demandé aux fans des dons. Ils ont demandé tout simplement aux fans des dons pour pouvoir courir à Abu Dhabi. Et donc, le résultat a été que Caterham a réuni 1 930 000 livres sterling environ sur les 2 350 000 qui étaient la cible. Enfin, en tout cas, 1 930 000 livres sterling, c'est encore en cours, hein, c'est ce qu'ils ont réuni pour le moment. Et ça représente 2 424 000 euros environ qui ont été donnés par environ 6 000 personnes pour l'instant. Le crowdfunding durant jusqu'à dimanche, hein, si jamais vous voulez donner. Mais si jamais vous voulez donner, je vous préciserai 2-3 trucs par rapport au fait d'ailleurs que ce crowdfunding est discutable. Voilà, donc ce crowdfunding a marché et Caterham pourra bien rouler à Abu Dhabi. Alors, on a eu l'info d'un pilote sur deux, Kamui Kobayashi, et pour le deuxième pilote, on ne sait pas encore. On va le savoir sûrement dans la semaine, ça c'est sûr, on le saura dans la semaine. Donc pourquoi c'est discutable selon moi que Caterham fasse appel au crowdfunding de cette façon? Tout d'abord, il faut aller sur la page du crowdfunding, sur CrowdCube. Et là, sur cette page, on apprend que le crowdfunding de Caterham est là juste pour pouvoir courir à Abu Dhabi, hein, comme je l'ai dit. Mais c'est juste pour ça. Il n'est fait mention à aucun endroit de la page que Caterham utilise ce crowdfunding dans le but de pouvoir poursuivre l'aventure en 2015. Donc, intérêt, je dirais, limité de ce crowdfunding. Hein. Pourquoi les voir juste à Abu Dhabi? C'est pour ça que c'est discutable et il faut que les fans lisent bien quand même, lisent bien les lignes, lisent bien la description du crowdfunding pour savoir pourquoi ils donnent et dans quel objectif. Là, l'objectif, c'est simplement de courir à Abu Dhabi. Ce qui est dommage qu'ils aient formulé comme ça l'objet du crowdfunding parce que pour que ce soit, on va dire, plus ambitieux et plus attirant comme crowdfunding, il aurait été, je pense, plus indiqué de mentionner que l'objectif, c'est quand même de laisser à Caterham plus de temps afin de se faire voir sur la piste et d'attirer d'éventuels investisseurs, des éventuels acheteurs pour que Caterham sorte la tête de l'eau et puisse survivre et continuer l'aventure en Formule 1. À mon avis, ça aurait été beaucoup mieux que juste de dire « Bon, ben, c'est pour courir à Abu Dhabi, hein. On fait appel, on va dire, aux fans pour, on va dire, faire poursuivre l'aventure Caterham qui sinon s'arrêterait, mais au moins faire le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est un peu réducteur, alors que je pense l'objectif de Caterham réel, c'est vraiment de trouver un acheteur, quoi. Et donc, courir à Abu Dhabi va leur permettre de se montrer et éventuellement de montrer que la marque Caterham, que le nom Caterham a su attirer des gens, assez de gens pour que l'écurie puisse courir lors d'un Grand Prix. Et ça, c'est un argument qui peut être intéressant pour des gens fortunés qui voudraient éventuellement permettre à Caterham de continuer l'aventure sous sûrement un autre nom d'ailleurs. Donc voilà, et Caterham de plus, voilà, il ne faut pas oublier qu'ils ont toujours les défauts que j'avais évoqués dans un précédent podcast, soit les différentes dettes qui s'offrent à cette écurie, etc., etc., les difficultés pour reprendre une écurie qui est quand même en grave difficulté à tous les niveaux. C'est vraiment un bourbier, hein. C'est vraiment un bourbier. Donc, mais ils essayent de s'en sortir de ce bourbier, mais c'est compliqué. Le crowdfunding, selon moi, était. C'est une bonne solution, mais il aurait fallu que ce soit un peu plus, on va dire, pertinent. Je trouve pas que l'objet du crowdfunding soit pertinent de juste courir pour un grand prix. Il aurait fallu être plus aguicheur, mais être vrai, parce que les raisons réelles, je les ai évoquées, et Caterham ne les a pas évoquées sur la page du crowdfunding, ce qui est dommage. Du coup, intérêt discutable du crowdfunding, mais si vous le souhaitez, vous pouvez quand même donner pour aider Caterham à continuer. Sachez qu'en donnant, vous pouvez bien sûr accéder à différents goodies, sachant que maintenant, il y en a quand même pas mal qui sont sold out. C'est-à-dire qui sont en rupture de stock. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Caterham. J'aimerais quand même que cette écurie survive, hein. C'est vrai que tout ne joue pas en sa faveur, mais j'aimerais quand même que cette écurie survive, tout comme Marussia. Survive sous ce nom ou sous un autre, hein, peu importe, mais c'est mieux pour la F1, comme je l'avais démontré, que ces écuries restent dans le sport. Contrairement à ce que certaines têtes soi-disant pensantes peuvent penser, je ne pense pas du tout à Bernie Ecclestone. Hein. Qu'allez-vous penser? C'est vrai que Bernie, là, cette semaine, les derniers 7 jours, là, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, les journalistes, à lui poser plein de questions. Il y a une tonne d'interviews qui sont sorties, et les propos d'Ecclestone, mais dans chacune de ces interviews, c'est des propos, mais qui sont à vomir. Hein. C'est dommage parce que t'as l'homme de façade, Bernie Ecclestone, qui est. Enfin, c'est exécrable ces paroles, c'est des paroles vraiment vieux jeu, pas très réfléchies, vraiment des paroles désagréables qui ne sont pas dans l'idée que je me fais du sport de la F1, c'est vraiment désagréable. Et à côté, t'as l'homme qui va faire son boulot, qui a fait son boulot pendant des dizaines d'années à la F1, qui a pas fait vraiment que du mal à la F1 hein, quand même. Il a fait son boulot de grand argentier, il est passionné par la F1, hein, c'est un grand passionné de F1, il y est depuis des dizaines d'années maintenant, il faut le croire, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a la F1 dans la peau. Hein, et voilà, et qui essaye de faire son boulot. Après, c'est vrai que sur certains points, c'est très discutable, sa communication notamment, hein, ses interviews, on dirait qu'il n'y en a plus rien à faire vraiment de ses paroles, et c'est irréfléchi, hein, franchement. C'est vraiment, vraiment irréfléchi. Et il y a plein de contradictions d'ailleurs dans ce qu'il peut dire et faire. Donc voilà, faut pas trop lire hein, les déclarations d'Ecclestone. Faut y lire, mais avec un grand détachement, hein, je vous le conseille. Hein. Enfin bref, c'est comme ça. Je voulais parler, oui, pour clôturer ce podcast, je voulais parler bien sûr de la lutte entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton qui va atteindre son sommet lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, enfin son sommet en termes de dénouement, du moins. Et le Grand Prix du Crépuscule n'aura jamais aussi bien porté son nom puisqu'il va clôturer la saison. On va commencer le Grand Prix de jour pour finir de nuit par une grande fête pour le champion qui sera soit allemand, soit britannique. Et donc, toutes les clés sont. Pour Lewis Hamilton, sont avec Lewis Hamilton. Il détient les clés de sa réussite. Hein. Il a 17 points d'avance, donc ils sont au-delà des 14 points que j'avais évoqués dans un précédent podcast. Et Nico Rosberg sera champion si il y a une défaillance du côté de Lewis Hamilton, le pilote, ou de sa monoplace. Et voilà, il faudra aussi peut-être compter pour Rosberg sur l'appui indirect des Williams qui ont envie de gagner un Grand Prix cette saison, évidemment, qui ont cet objectif en tête, même si c'est vrai que Mercedes, leur monoplace dès le début de saison était au-dessus, le développement de la monoplace a été parfait, et quand tu as deux pilotes comme ça aussi forts qui poussent la monoplace dans ses retranchements, ah, c'est dur pour les autres d'aller venir les chercher, hein. Comme McLaren en 88, hein, c'est compliqué à ce niveau-là. C'est d'où les records, de Mercedes au niveau des victoires dans une saison, au niveau des doublés, etc. Ça, tout s'explique, hein. Franchement, y a pas de fumée sans feu, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc évidemment, on va suivre cette course dimanche à 14h. À 14h, et oui, une bonne heure pour nous, Européens. Donc vraiment à 14h. Ça va être une course intéressante. J'espère que la course en elle-même sera intéressante. Mais bon, quoi qu'il arrive, le champion l'aura mérité. Je reviendrai dessus sûrement dans le prochain podcast sur la course d'Abu Dhabi, sur tout ça. Ça, c'est sûr. Donc, bonne course à tous. Et n'oubliez pas, pour les fans de Formule E, la Formule électrique, que le deuxième e-prix aura lieu samedi à 7h du matin et sera apparemment disponible en streaming légal gratuit sur le site de la Formule E. En voilà une discipline qui aurait tout compris, d'utiliser on va dire le site internet de façon sociale et pour faire connaître sa discipline. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne initiative. Je ne sais pas si elle va se répéter, mais en tout cas, même si elle ne se répète pas, c'est vraiment un très bon moyen de faire connaître la discipline aux gens et ensuite, du coup, de faire vendre la discipline. Ça, c'est une bonne stratégie. Donc, affaire à suivre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder cette course samedi matin. Voilà, et eh bien, je vous remercie d'avoir écouté sur ce podcast et ce week-end. Tous ensemble pour le dernier Grand Prix de la saison. Ah, on va être nostalgique, on va tous être nostalgique, comme à chaque fin de saison. Hein, on se dit, ah, il faut attendre jusqu'au printemps prochain avant de reconnaître cette joie de la Formule 1. Mais vraiment, profitons-en dimanche et ce week-end pour les fans de Formule 1, de Formule E. Tout ce week-end, vivons notre passion. À la semaine prochaine. Thank you.